France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand-mère vous fasse. Et ce matin, pourquoi fait-on moins d'enfants dans notre pays? Comment expliquer cette dénatalité, un phénomène mondial qui touche quasiment tous les pays? Exemple extrême avec l'Italie et le Japon qui verront leur population quasiment divisée par deux d'ici la fin du siècle. Quoi qu'il en soit, l'exception démographique française n'existe plus. Selon l'INED, en 2024, 663 000 bébés sont nés. Dans le même temps, 646 000 personnes sont décédées. Le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, s'établit à plus 17 000 seulement. Bref, comme le rappelle l'un de nos invités, Maxime Sbahi, nos maternités et nos écoles se vident au moment où nos maisons de retraite se remplissent. En un siècle, la France a divisé par deux la proportion des enfants dans sa population. Nos invités vous apporteront des pistes pour comprendre ce vaste et puissant phénomène de dénatalité, au-delà des réponses simplistes, une dénatalité qui aura des conséquences inéluctables sur notre modèle économique et social. Nos expertes et experts attendent de toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Je ne veux pas d'enfant pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est j'aurais du mal à faire un enfant sans savoir dans quel monde il va grandir. C'est-à-dire que je ne suis pas forcément déjà confiant, je ne suis même pas confiant du tout en fait sur l'avenir du monde. On voit ce qui est annoncé pour 2050, 2100, etc. Je ne suis pas sûr que le joli monde dans lequel on vit encore à peu près aujourd'hui sera encore d'actualité d'ici là. Si on fait un enfant, il faut se poser la bonne question. Est-ce qu'on fait un enfant pour soi ou est-ce qu'on fait un enfant pour lui? Est-ce que c'est réellement une bonne chose de faire un enfant et de le lancer dans un monde où il sera peut-être du coup très malheureux? La deuxième raison, en fait, c'est que on est déjà trop nombreux sur la planète, ça c'est une certitude, hein. Faut arrêter de se mentir à soi-même, on est déjà trop nombreux. Eh ben, moi je suis désolé, je me vois pas faire un enfant parce que je me vois pas le lancer dans un monde compliqué. Par contre, essayer d'apporter mon aide et mon soutien à un enfant qui de toute façon sera là et de toute façon on va sûrement connaître des choses compliquées, là y a pas de souci. Donc je ne dis pas que je n'aurai jamais d'enfant, mais je ne veux pas en faire. C'est deux choses différentes.
Le témoignage de Florent, 27 ans, en octobre 2021, dans l'émission Envoyé spécial sur France 2. Vous verrez hein, ce matin que ce ne sont pas essentiellement les raisons écologiques qui poussent les jeunes à ne pas faire d'enfants. Bonjour Charlotte Meyer.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et chercheuse spécialisée dans l'environnement et l'adaptation au changement climatique et vous dirigez la revue Combat. Vous êtes l'autrice du livre Les enfants de l'apocalypse, faire des mômes n'empêche pas d'être écolo. Que vous inspire ce témoignage de Florent?
Alors c'est un témoignage qui résonne beaucoup en moi, c'est un avis personnel que j'ai beaucoup eu moi-même pendant plusieurs années.
À 20 ans, vous ne vouliez pas d'enfant?
Absolument, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que vraiment je pense que j'aurais pu dire ce discours mot pour mot. Et beaucoup de personnes que j'ai rencontrées pour ce livre sont dans la même situation aussi.
C'est une enquête hein, votre livre?
C'est une enquête, c'est ça, une enquête de terrain. Et je crois que c'est un avis que rejoint de plus en plus de personnes de ma génération et des générations suivantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas en fait dans quel avenir notre enfant va grandir, notre potentiel enfant. On sait par exemple qu'un enfant né en 2020 va connaître 7 fois plus de vagues de chaleur extrêmes qu'une personne née en 1960. Donc c'est des situations que même en connaissant les chiffres, en fait, on ne sait pas qu'est-ce la réalité quotidienne.
Et vous avez changé d'avis, Charlotte Meyer. Vous avez donné naissance à une petite fille.
C'est ça. C'est ça. Il y a quelques années, j'étais partie en reportage pour écrire un livre sur les alternatives locales, écologiques. Et au plein milieu de ce reportage, je tombe enceinte. Et je me dis, c'était pas prévu. Je suis journaliste écolo, donc je sais à quoi je m'attends. Ça fait des années que j'ai les chiffres sous les yeux tous les jours. Ou une fois qu'on met le nez dedans, on tombe un peu dans un vortex assez effrayant, finalement. Et voilà, et donc je prends rendez-vous pour une IVG de manière assez... pas très sereine parce que je sens que je désire vraiment cet enfant et que c'est un sacrifice finalement que je fais. Et tout ça pour y renoncer la veille de l'opération en me disant je me sens davantage prête à garder cet enfant et à me battre pour son avenir qu'à y renoncer aujourd'hui.
Et vous nous expliquerez pourquoi vous avez changé d'avis. Charlotte Meyer, bonjour Didier Breton.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg, démographe et chercheur associé à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Que vous inspire ce témoignage de Florent que nous avons entendu?
Ce témoignage, en effet, il résonne assez bien dans l'actualité. Nous, on a l'habitude de travailler sur des chiffres. En tout cas, ça résonne même dans les chiffres, puisque ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est que la part des personnes qui sont sans enfants aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils le sont toute leur vie, mais à un âge donné, en effet, augmente, et ça a particulièrement augmenté depuis 2011 sur 10 ans. Donc en effet, après avoir les raisons, c'est multifacteur, on va en parler aujourd'hui, mais c'est un fait, c'est avéré. Ouais.
Bonjour Maxime Sbahi.
Bonjour.
Vous êtes économiste. Après votre essai remarqué, Le Grand Vieillissement, vous publiez à l'Observatoire un essai passionnant. Les balançoires vides, le piège de la dénatalité. Même question, que vous inspire ce témoignage ?
C'est un discours qu'on entend de plus en plus, qui est tout à fait respectable, parce que peut-être qu'il faut commencer cette émission par dire que la fécondité, c'est une affaire de choix, avant tout, et qui doit le rester, hein, depuis qu'on a séparé reproduction et sexualité. C'est une affaire donc, de choix et de liberté individuelle, en premier lieu celle des femmes. Donc tout ce qui est un discours qui consiste en fait à instrumentaliser l'enfant, la natalité, ça devient dangereux et ça peut...
réarmement démographique.
Oui, par exemple, vous en parlez, c'est une rhétorique que je trouve qui est très mal choisi, déjà parce que les enfants ne sont pas des obus, le ventre des femmes ne sont pas des canons, on n'est plus au 19e où effectivement la démographie et la natalité faisaient partie de grands débats sur la puissance militaire d'un pays. Aujourd'hui c'est plus sur le plan économique voire géopolitique, mais voilà. Alors après, est-ce qu'il ne faut pas faire d'enfants pour sauver la planète? Alors ça c'est un débat qui est très très vieux. Moi je pense que si on estime qu'il est irresponsable de faire naître un enfant dans un monde en réchauffement, je pense qu'il est encore plus irresponsable de laisser un monde réchauffé à nos enfants. Et la natalité permet d'inverser la charge de la preuve, justement, et je pense au contraire que les enfants incarnent les combats écologiques. Hannah Arendt a écrit des pages magnifiques sur la natalité comme le moyen, en fait, de refonder le monde, de le reconstruire et de dépasser l'horizon, les caprices du présent et l'irresponsabilité inhérente au présent pour se battre pour l'avenir et pour tous ceux qui vont nous suivre.
Didier Breton, au 1er janvier 2024, la France comptait un peu plus de 68 millions d'habitants. Selon l'INED, en 2024, 663 000 bébés sont nés. C'est plus de 20% de moins qu'en 2010. Dans le même temps, 646 000 personnes sont décédées. Le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, s'établit à plus 17 000 habitants. Ce solde naturel est historiquement bas depuis l'après-guerre.
Alors, il est historiquement bas. Il reste positif. Hein. Il faut voir que dans la majorité des pays européens, de nos voisins, ce solde est négatif depuis un certain temps. Alors, il est contrebalancé par le solde migratoire. Mais 17 000, en effet, c'est vraiment faible. Les naissances, elles baissent. Elles peuvent baisser parce qu'il y a moins de femmes qui sont en âge d'avoir des enfants ou parce que le comportement change. Et là, en effet, c'est la fécondité qui a baissé. Donc, c'est vraiment leur comportement, c'est le nombre moyen d'enfants par femme qu'on utilise, qui a baissé. Alors, au moment d'eux, ça ne veut pas forcément dire... Il y a probablement des gens qui ont reporté leur projet fécond, et donc qui vont faire leur enfant un peu plus tard. Donc, ce chiffre de 1,6, là, enfants par femme, ils sous-estiment fortement ce qu'il y aura dans les générations.
Maxime Sbahi, comme vous l'écrivez dans votre livre, nos maternités et nos écoles se vident au moment où nos maisons de retraite se remplissent. Dans un proche avenir, notre solde naturel pourrait virer au négatif.
Oui, c'est quasiment écrit, parce qu'en fait sur...
C'est inéluctable.
Alors, c'est pas inéluctable, rien n'est certain, mais les décès vont continuer d'augmenter parce qu'on a un vieillissement accéléré de la population qui fait d'ailleurs que les baby-boomers, donc cette vague nataliste hein, d'après-guerre, commence à arriver à des âges où la mortalité est plus élevée, et donc on voit effectivement la courbe des décès qui remonte lentement, et on a la courbe des naissances qui continue à baisser. Alors, est-ce qu'elle va continuer à baisser? Moi, je le pense, parce que je pense que c'est une tendance structurelle, mais en fait, le croisement des courbes, enfin quand on est à 17 000 aujourd'hui de sol naturel, dans une population de 68 millions d'habitants, c'est infinitésimal. Et donc le basculement, on le voit d'ailleurs dans tous les autres pays voisins. Moi, je pense qu'on y va et que ça va poser effectivement des soucis en termes économiques et sociaux qu'on commence déjà d'ailleurs à ressentir.
Didier Breton.
Oui, le sol naturel, en effet, il va probablement descendre. Mais attention, on a une inertie en démographie. On a eu un pic des naissances à partir des années 2000. Ces personnes vont rentrer aujourd'hui dans leur âge fécond. Donc même si elles ont en moyenne peu d'enfants, elles seront plus nombreuses que dans le creux, parce qu'on a eu un creux dans le milieu des années 90. Donc ça ne va pas être aussi rapide que ça.
Mais dans votre livre, Maxime Sbahi, vous évoquez deux pays qui connaissent un solde négatif très inquiétant, l'Italie et le Japon, qui connaissent un véritable hiver démographique. D'ici la fin du siècle, leur population respectives pourraient être divisées par deux.
Alors ça, c'est quand on regarde effectivement les prévisions de l'ONU, hein, quand on extrapole les courbes d'aujourd'hui qui peuvent varier, qui peuvent changer. Le Japon, c'est le pays de la fécondité basse la plus longue. C'est-à-dire que dès les années 70, ils sont tombés en dessous du seuil de renouvellement des générations. Donc on estime autour de 2,1 enfants par femme en moyenne.
Vous parlez même d'un véritable suicide démographique.
Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un terme qui est souvent employé, je pense qu'il faut faire attention sur les termes, mais c'est vrai qu'ils sont sur une trajectoire où si elle continue comme ça, en tout cas si les naissances ne rebondissent pas au Japon, ils vont perdre la moitié de leur population d'ici la fin du siècle.
En sachant que c'est un pays, le Japon, qui rechigne à compenser sa pénurie de jeunes par l'immigration, et c'est un choix culturel assumé.
Exactement, alors le Japon c'est un pays, pour le dire un peu de manière caricaturale, qui ne fait plus de bébés et qui ne veut pas d'immigrés. Et ils ont aujourd'hui déjà des énormes tensions sur leur marché du travail, que nous on ressent aussi, mais au Japon c'est dans des proportions quand même beaucoup plus grandes. Et ils vont manquer de 11 millions d'actifs d'ici 2040, c'est-à-dire qu'il y a 11 millions de personnes qui vont manquer sur le marché du travail. Alors eux, ils misent tout sur les robots. Ils essaient de robotiser, alors l'industrie automobile ça marche plutôt bien. Robotiser une crèche ou une maison de retraite, c'est quand même beaucoup plus difficile. Tout ce qui touche au service à la personne, là il manque cruellement de jeunes, d'autant plus qu'il y a des personnes âgées qui ont besoin d'être soignés, d'être accompagnés.
Et en Italie ?
Et alors en Italie, c'est un peu le Japon européen. L'Italie aussi, ils sont à 1,2 au taux de fécondité aujourd'hui. Ils perdent de la population tous les ans. Ils perdent aussi la population active. Ce qui est intéressant politiquement en Italie, c'est que Giorgia Meloni a été contrainte de faire appel à l'immigration. Elle a signé un décret.
La première ministre d'extrême droite.
Exactement, qui en fait a fait campagne contre l'immigration et qui se retrouve face à une réalité démographique où elle a dû faire venir un demi-million de travailleurs étrangers justement pour compenser les manques. La démographie, c'est une botte souveraine, hein, on ne peut pas y échapper. Hein, c'est quelque chose qui est quand même assez profond, c'est une tendance longue. Et donc, politiquement, c'est difficile pour les pays de faire des choix. C'est des choix sociétaux, au final.
Didier Breton, sur la situation d'Italie au Japon.
Oui, donc l'Italie, en effet, mais d'autres pays. Hein, l'Allemagne, ça fait plus de presque 30 ans, 40 ans qui sont en dessous de ceux d'eux. Donc c'est quand même dans nos voisins européens, c'est la tendance. Hein. Donc les gens se sont habitués. Alors des pays, par contre, par exemple, comme l'Espagne où la fécondité est descendue très bas, ou même l'Irlande, enfin, faut voir la fécondité en Irlande, ont compensé par la migration. Mmh. Donc c'est vrai que cette question de la migration, des États ont pris ce levier et aujourd'hui une croissance, malgré un solde naturel négatif, une croissance plus élevée que nous.
Pour la clarté du débat, pouvez-vous rappeler ce qu'est le taux de fécondité, ce taux de fécondité qui est d'1,68 en France ? Expliquez-nous ce que c'est.
Alors,
exactement.
Je vais essayer d'être à peu près clair. Donc nous, on appelle ça l'indice conjoncturel de fécondité. Alors on regarde une année donnée, à chaque âge, combien les femmes ont eu en moyenne d'enfants dans l'année. Et on imagine une femme ou une femme qui, toute sa vie, aurait le même comportement que celle de l'année. Et quand on additionne tous ces taux, on arrive à 1,6. Mmh. Alors c'est toujours un peu compliqué, parce que si vous êtes dans une période d'incertitude forte ou de crise, tout le monde va adopter un comportement de reporter ses naissances, et on fait l'hypothèse qu'une personne va toute sa vie vivre dans ces conditions-là. Donc c'est toujours un peu difficile à interpréter.
Et le taux de fécondité, c'est donc le nombre moyen d'enfants par femme qui permet donc de déterminer le seuil de renouvellement des générations.
C'est ça, mais généralement, on n'utilise pas, si on veut travailler au renouvellement, on n'utilise pas l'indice conjoncturel de fécondité, on utilise la descendance finale, c'est-à-dire des femmes qui sont nées une même année, à la fin de leur vie féconde, combien elles auront d'enfants. Et aujourd'hui, en France, dans les cohortes nées en 1985, renouvellent encore, c'est-à-dire auront en moyenne, à la fin de leur vie, un peu plus de 2 enfants par femme, et, c'est-à-dire plus que le 1,6. Donc souvent, nous, les démographes, on utilise la descendance finale, mais dans cette descendance finale, il faut attendre que toutes les femmes aient attendu 50 ans, donc c'est pas si facile.
Une photo jaunie, en fait, hein, ouais. C'est une photo du passé.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Directeur des rédactions du 1 Hebdo, quel est le menu de votre chronique, Ma vie de parents ?
Eh bien, puisqu'on parle de vieillissement de la natalité, on va se demander quand est-ce qu'on est véritablement prêt à être parent.
Grand bien vous fasse.
Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille ? Les ours blancs qui deviennent gris, les glaciers qui deviennent des petits glaçons, les forêts qui brûlent, les koalas rôtis, vous trouvez ça rigolo, Mireille ? J'ai pas envie de laisser un monde trop pourri à mes enfants. Vous comprenez, Mireille ?
Sur France Inter.
Pourquoi fait-on moins d'enfants ? C'est notre question ce matin.
Les années passent et la baisse des naissances se confirme. 663 000 bébés sont nés en France en 2024, soit 2,2% de moins qu'en 2023, le plus bas niveau enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale. Toujours moins de bébés à cause d'une fécondité en berne, 1,62 enfants par femme, du jamais vu depuis plus d'un siècle, un phénomène sur lequel les experts de l'INSEE s'interrogent. Alerté par la chute brutale des naissances observée en 2023, le chef de l'État avait appelé à un réarmement démographique. Avec 68,6 millions d'habitants, si la population française a continué de croître en 2024, c'est en grande partie grâce à l'immigration, mais à un rythme qui s'essouffle.
Reportage France Info diffusé le 15 novembre dernier. Alors on explore ce matin quelques raisons qui expliquent la dénatalité, les fécondités désirées ou non désirées. Maxime Sbahi, je rappelle que vous êtes économiste, que vous publiez les balançoires vides. Avec ces questions de dénatalité, il faut faire preuve de modestie. Beaucoup d'interrogations, très peu de certitudes et aucune solution miracle, comme vous l'écrivez dans votre livre. La natalité a ses raisons que la raison ignore.
Oui, d'ailleurs, je donne l'exemple comme quoi elle réagit de manière complètement inattendue. Aux États-Unis, il y a des nouvelles régulations qui ont été mises en place où on vous oblige à avoir soudainement 3 sièges bébés, en fait, quand vous avez des enfants. Il faut garder les enfants plus longtemps dans les sièges bébés. Mais il y a beaucoup de familles qui se sont, en fait, limitées à 2 enfants plutôt qu'investir dans une nouvelle voiture qui, nécessiterait d'avoir 3 sièges bébés à l'arrière. Donc, en fait, il y a plein de petites mesures comme ça qui peuvent influencer. Mais on imagine bien qu'une décision aussi intime, aussi engageante dans la vie que de faire un enfant, elle est, comme on dit en économie, multifactorielle. Il y a énormément de facteurs qui viennent l'influencer. Et donc, c'est très difficile d'avoir des certitudes. On ne sait pas exactement comment elle réagit. Et il n'y a pas de solution miracle à la dénatalité. Donc, effectivement, beaucoup de modestie quand on parle de démographie.
Didier Breton, je rappelle que vous êtes chercheur en démographie, à l'INED notamment. Oui.
Ben sur les raisons, nous, quand on regarde les politiques natalistes, il y en a eu beaucoup et de différentes formes. Alors, elles fonctionnent plus ou moins. Il y en a certaines qui vont fonctionner à court terme si vous donnez une prime pour la naissance. Alors, les gens, généralement, vont faire un enfant plus tôt. On l'a vu avec le million Giscard dans les années 80, soit fin des années 70.
Rappelez ce que c'est.
Il y avait eu une baisse de la natalité aussi. Il y a des vagues dans les années, fin des années 70, après fin des années 90, et puis là, aujourd'hui. Et donc, il y avait eu une prime à la naissance. On disait le million Giscard, parce que c'était 10 000 francs à l'époque. Donc nous, on a regardé, ça a eu un effet, en effet, les naissances ont augmenté, mais quelques années après, hop, sont redescendues assez mécaniquement, quoi. Donc c'est assez compliqué. C'est plus difficile, c'est plus facile de faire des politiques, la Chine a réussi, pour diminuer la fécondité, même ça fonctionne pas toujours.
La politique de l'enfant unique.
Oui, des politiques coercitives, des politiques natalistes, il en existe, mais celles qui pourraient fonctionner sont vraiment radicales et personne ne les souhaite, je pense.
Vous, Charlotte Meyer, je rappelle que vous avez publié Les enfants de l'Apocalypse, faire des mômes n'empêche pas d'être écolo. Vous avez donc 20 ans, vous tirez un trait sur votre désir de maternité, puis vous changez d'avis. Un soir d'octobre, vous apprenez, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous êtes enceinte, vous ressentez une immense bouffée de bonheur, vous prévoyez une IVG. Et pendant ce laps des 6 semaines, vous changez d'avis et vous écrivez une chose très forte. Finalement, les fous ne sont pas ceux qui font des enfants, mais ceux qui contribuent à leur rendre le monde inhabitable. Expliquez-nous.
Oui, en fait, il y a quand même un très gros débat, notamment dans les milieux écolos, sur faut-il ou non faire des enfants. Je trouve que c'est un débat qui est très violent. On le rappelait avant, et c'était assez bien que ça reste un choix intime. Nous, on a beaucoup tendance à présenter l'enfant en termes de bilan carbone ou de surpopulation, mais il y a quelque chose de très intime, en fait, dans le choix d'avoir un enfant ou pas.
Il peut y avoir des réactions violentes. Notre médecin et chroniqueur dans cette émission, Baptiste Beaulieu, qui a pris la décision de faire un enfant, s'est fait massacrer sur les réseaux sociaux parce qu'on critiquait ce choix de faire un enfant.
J'en parle justement en introduction. Et je pense qu'un des principaux problèmes de ce débat, en plus d'être virulent et de diviser profondément, alors qu'on a plutôt intérêt à s'unir, surtout en ce moment face à l'urgence climatique, c'est qu'en fait, ça laisse complètement de côté la véritable question qui est comment est-ce qu'on modifie profondément nos sociétés pour qu'elles soient adaptées au orbite planétaire, à l'avenir qui nous attend, et comment est-ce qu'on éduque nos enfants à ça? Parce que même si demain on décide que allez, tout le monde arrête de faire des enfants parce que de toute manière demain la planète ne va pas être habitable, il nous reste toujours des enfants à élever sur cette planète, et je crois qu'on a tout intérêt à leur promettre l'avenir le plus beau possible.
Pourquoi vous avez changé d'avis? Vous écrivez « Devenir parent suppose de sortir d'une forme d'égotisme dans laquelle nous avons été élevés. Mettre au monde, c'est sortir de soi pour prendre soin d'un autre. »
Alors, ça oblige de devenir parent. Ouais. Je ne sais pas combien de personnes dans ce studio sont parents, mais oui, effectivement. Alors, on nous dit aussi que c'est égoïste de faire un enfant dans ce monde-là. Donc, je pense que les façons de l'égoïsme n'est pas vraiment valable des deux côtés. Mais oui, on est quand même dans une société où on nous apprend aussi à que c'est important de faire carrière, de penser à soi en premier, et avoir un enfant, ça, je trouve que ça, exactement, ça nous sort de nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui devient prioritaire dans notre vie.
Didier Breton.
Oui, c'est assez intéressant parce que, enfin, pas historiquement, mais jusqu'à récemment, la France se distinguait des autres pays européens par une part de femmes sans enfants relativement faible. Et on l'expliquait notamment par une pression sociale forte à avoir un enfant. Et ce que vous dites là, c'est comme si la pression sociale s'inversait, et s'inversait sur le fait d'avoir un enfant qui est... Enfin, de ne pas avoir d'enfant, puisque ce n'est pas responsable.
Oui. Ce serait intéressant d'avoir des chiffres, mais c'est vrai, je pense que ça dépend beaucoup de l'entourage aussi. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui me disent qu'elles ne veulent pas d'enfants et qu'elles sentent une pression sociale. Moi, je l'ai senti de manière différente, c'est-à-dire que c'était plutôt une pression pour ne pas avoir d'enfants dans le contexte climatique. Il y aurait peut-être une question de, voilà, d'entourage, de... mais c'est, je trouve ça intéressant que le débat, effectivement, se renverse un peu.
Maxime Sbahi.
Ce qui est intéressant de regarder aussi dans les enquêtes, c'est que, alors, elles valent ce qu'elles valent, c'est très difficile de mesurer le désir d'enfant, en fait. Hein, parce que vous imaginez, voilà, c'est tellement intime, ça peut changer aussi au fil de la vie, au fil des rencontres. Mais quand on pose la question sur le long terme aux Français, combien d'enfants souhaiteriez-vous dans l'idéal avoir, on s'aperçoit que la réponse est supérieure à
2,7.
Alors 2,3, plutôt 2,3.
Dans une enquête de 2023.
Ouais, plutôt 2,3, mais en tout cas, c'est supérieur au taux de fécondité. Alors, c'est pas, je parle sous le contrôle de Didier Breton, c'est pas directement comparable, mais il y a quand même un écart entre la réalité et la volonté qui est positif, et qui, moi, me permet de dire qu'en fait, qu'il y a aussi une part de la dénatalité qui est subie, qui ne résulte pas du choix, mais qui résulte aussi de contraintes, de crises très fortes, qui empêchent les Français de faire autant d'enfants qu'ils le voudraient.
Je redis mon chiffre, 2,7, que j'ai puisé dans votre livre, Maxime Sbahi, d'après des résultats agrégés d'une enquête en 2023, tous âges, sexes et situations confondues, et donc c'est de toute façon un chiffre très au-dessus du taux de fécondité de 1,68 enfants. Didier Breton.
Cette question de la mesure du désir d'enfant, c'est quelque chose qui nous préoccupe particulièrement. Et je pense qu'il faut toujours être prudent par rapport à ça, parce que si on vous demande est-ce que vous voulez des enfants, beaucoup de gens vont vous dire oui. Et la question, c'est à quelles conditions vous voudriez avoir un enfant ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous estimez devoir accomplir avant d'avoir un enfant ? Et quel choix vous feriez entre avoir un enfant et renoncer à autre chose ? Et très probablement que le désir d'enfant, dans la hiérarchie des choix des individus, a un petit peu baissé aujourd'hui. Alors on peut arriver 2,7, ça me semble un peu beaucoup, mais autour de 2, en tout cas au-dessus de 2.
Dans votre livre.
Non, mais c'est très difficile à mesurer, hein, mais au-dessus de 2, c'est sûr. Mais encore une fois, il faudrait demander à quelles conditions. Et avoir un enfant, c'est renoncer, c'est du temps. Aujourd'hui, les jeunes couples souvent sont diplômés, sont biactifs. Le temps consacré à l'éducation, en plus on l'a plus tard, donc il y a une espèce de pression à être un bon parent, et ça force à avoir des gymnastiques et tout. Et la question est plutôt, est-ce que j'en veux un de plus ?
Vous avez raison, mea culpa, j'ai mal noté sur mon texte, c'est 2,27 en fait, 2,27 enfants souhaités, donc bien au-dessus du taux de fécondité constaté de 1,68 enfants, pense sur le bec. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre l'infécondité involontaire et l'infécondité volontaire ? C'est une distinction très importante, Maxime Sbahi.
Oui, alors l'infécondité volontaire, c'est un choix, encore une fois, qui doit rester dans le cadre du personnel et des libertés individuelles, de ne pas avoir d'enfant ou d'avoir un enfant et pas deux, pas trois. Et donc ça, moi je pense que l'État n'a rien à dire là-dessus, n'a rien à faire là-dedans, il n'a pas à aller dans les chambres à coucher ou à dicter des modes de vie. Voilà, c'est pas son rôle. Ce qui m'intéresse plus, c'est quand cette infécondité, elle est involontaire. Alors elle peut résulter d'une frustration en fait du désir d'enfant. Alors ça peut être sur le côté de la fertilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les femmes font des enfants de plus en plus tardivement. En 50 ans, l'âge moyen de l'accouchement était décalé de 5 ans. Parce que vous avez plus de liberté, parce que vous avez un allongement des études, parce que vous commencez un peu plus difficilement la vie active. Et donc forcément, les lois de la biologie étant ce qu'elles font, avec le temps, vous avez une décrue en fait, enfin une baisse de la fertilité qui est plus rapide pour les femmes que pour les hommes. Donc ça, c'est un élément. Mais il y a aussi, je pense, et ça on le voit dans certaines enquêtes, il y a un problème sur le logement. Les jeunes actifs aujourd'hui, en tout cas les jeunes générations, ont perdu entre 20 et 30 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier dans les grandes villes. Et donc ça, c'est une ou deux chambres d'enfants, clairement. Et donc là, vous pouvez faire autant d'enfants que vous voulez. Si vous n'avez pas l'espace tant pis pour vous. Le travail qui ne paye plus, ça c'est aussi un gros sujet, mais on a quand même un problème intergénérationnel en France, où aujourd'hui le niveau de vie des actifs n'augmente plus beaucoup, il est même rattrapé par celui des retraités, c'est la première fois quand même que ça arrive, il y a un changement. Et les modes de garde, pour moi c'est presque le plus important, les modes de garde ne sont pas disponibles, on a une crèche sur deux qui en manque d'effectifs, on a une commune sur quatre qui n'a pas de mode de garde disponible, et ça, c'est, ça joue énormément parce que le mode de garde c'est ce qui permet de baisser le coût d'opportunité de la parentalité. C'est ce qui permet, aujourd'hui on voit, il y a beaucoup de femmes encore en France aujourd'hui, c'est une réalité qui en fait, quand elles ont des enfants, elles sortent du marché du travail parce qu'elles doivent s'en occuper, et c'est majoritairement des femmes, parce que les modes de garde ne sont pas disponibles pour pouvoir justement leur permettre de poursuivre leur carrière et leur désir de maternité en même temps, et je pense que ça c'est quand même quelque chose d'important à soulever.
Charlotte Meyer.
Oui, je trouve ça très intéressant parce que jusque-là on parlait beaucoup d'écologie, mais en fait quand on regarde, on constate surtout qu'on vit dans une société qui ne nous permet pas d'avoir un enfant de manière sereine, de pouvoir s'en occuper convenablement. Là, on parlait des mères qui doivent vite retourner au travail, il y a aussi des mères qui veulent rester avec leur enfant par exemple, oui, qui n'ont pas la possibilité. En fait, aujourd'hui, faire famille en ayant les moyens, en étant confortable, en pouvant passer du temps avec son enfant, c'est très compliqué finalement.
Didier Meyer,
Didier Breton. Ce que vous avez dit, il y a un indicateur qui est vraiment important, c'est le recul de l'âge au premier enfant, hein, qui augmente. Alors souvent, les politiques publiques vont avoir tendance à raisonner en disant les gens font moins d'enfants parce qu'ils les ont plus tard, donc un moyen c'est de les inciter à les avoir plus tôt. Or je pense que probablement ils en ont moins parce qu'ils en désirent moins aussi. Les gens ont rationalisé le fait que si on l'a plus tard, eh ben, peut-être qu'on en aura moins. Et le mode de garde, c'est vraiment ce qui est au cœur de la politique familiale en France, hein, c'est une spécificité. Et on reste encore dans une situation assez favorable en France, mais probablement que les choses ont changé, le coût a un peu changé. Et dans les changements, ça produit un effet assez fort. Le dernier truc, c'est que la politique familiale, je vous disais, le modèle français, c'était globalement assez peu de femmes qui n'avaient pas d'enfants, enfin de couple, et puis une part un peu plus importante qu'ailleurs, qui passait de 2 à 3. Et probablement que ce passage de 2 à 3, on a peu d'éléments, c'est très difficile d'expliquer pour le mesurer, mais est en train de changer aussi. C'était ce troisième enfant qui faisait que la fécondité autour de 2, probablement on aura changé, on en a 1 ou 2. Et...
Maxime Zbahi.
Oui, d'ailleurs, il y a un grand tassement de la taille des familles. Hein. Ouais. Je crois que dans les années 70, on avait un quart des familles qui avaient 3 enfants et plus, et aujourd'hui, c'est plus que 16%. Mmh. Et effectivement, maintenant, la norme, c'est une famille à 2, voire à 1 enfant. Sur les modes de garde, en fait, je trouve qu'on est un peu dans une illusion en France de croire qu'on est un pays assez facile, justement, pour faire des enfants. Et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. En fait, ce n'est plus le cas. Moi, je l'ai découvert en devenant père, et je me suis rendu compte à quel point c'était très compliqué, effectivement, sur les modes de garde, que rien n'est fait pour faciliter les choses. Mmh. Et le problème qu'on a, c'est pas tant nombre de places en crèche, c'est en fait, on manque de personnel dans ces crèches. Parce que les salaires ne sont pas à la hauteur, parce qu'on manque de jeunes, hein, c'est là aussi où la dénatalité se mord un peu la queue, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de jeunes qui font de moins en moins d'enfants, et on a du coup de moins actifs dans la société, et on a des tensions partout sur le marché du travail, aussi bien dans les EHPAD que dans les crèches. Donc en fait, on ressent aussi ce manque de personnel, ce manque d'accompagnement, de moyens pour les parents. Moi, je milite pour qu'on augmente les salaires des auxiliaires de puériculture plutôt que les retraites. Vous voyez, je pense qu'il y a il y a aussi un basculement de priorité politique à faire, moins investir dans les retraites et plus dans la petite enfance. Je pense que ça pourrait en tout cas aider beaucoup de parents.
Maxime Zbahi, ceux qui ne veulent pas d'enfants de façon volontaire sont pour vous une minorité surestimée à cause d'un effet de loupe médiatique ?
Moi je trouve qu'on en parle beaucoup, que dans les chiffres, pour l'instant, on ne les voit pas, mais comme vous le rappeliez, de toute façon, c'est difficile de les voir en temps réel. Ça prendra du temps pour mesurer tout ça. Mais je trouve effectivement qu'on parle beaucoup de ces sujets-là, que c'est probablement, en tout cas c'est minoritaire, c'est probablement en hausse, mais qu'il y a un écho médiatique autour de ça qui est plus fort que la réalité. La réalité, et moi j'ai reçu beaucoup de témoignages depuis que j'ai publié le livre, c'est vraiment un problème de logement, ouais, un problème de mode de garde en premier, avant la planète, l'écologie. Donc ça existe aussi, mais enfin, il y a des réalités très concrètes, quotidiennes, qui jouent et qui pèsent sur les projets familiaux.
Charlotte Meyer, je rappelle donc que vous avez publié Les enfants de l'apocalypse, faire des mômes n'empêche pas d'être écolo. Alors, avec la fonte des glaces, les incendies dévastateurs, les cyclones, les inondations, le réchauffement climatique et ses conséquences sur le futur peuvent détourner du désir d'enfant. Et pourtant, vous le martelez dans votre livre, je vous cite, « Enfanter est un geste politique ». Je vous cite à nouveau, « La parentalité renferme un éventail d'actions inimaginables pour faire face à la crise que nous traversons en ce moment ».
Oui. Oui, en fait, le point de départ de ce livre, c'est vraiment, je tombe enceinte et je me dis, mais alors comment est-ce que je vais pouvoir élever mon enfant dans ces conditions-là ? Il y a forcément d'autres familles qui ont fait, voilà, qui ont pris cette décision de devenir parents en conscience et qui ont pris des chemins de traverse dans les modèles d'éducation. Et donc l'idée, c'était vraiment de voir comment est-ce que, en étant parent et en faisant famille différemment, on peut créer une bascule sociétale pour proposer des modèles de société différents. Donc ça va être parfois des parents qui restent dans le système tel qu'il est aujourd'hui, mais qui vont un peu le bousculer de l'intérieur, donc en étant militants et en militant avec leurs enfants, en faisant l'instruction en famille par exemple, en étant dans beaucoup de collectifs, et ça va jusqu'à d'autres familles qui, elles, vont aller vivre un peu en marge de la société. Alors pas en repli sur soi, parce qu'en fait, elles recréent des collectifs différemment, ils sont au contraire très impliqués politiquement, mais où elles refont vraiment des sociétés différentes, où elles font l'instruction en famille, alors elles accouchent à domicile, elles élèvent leurs enfants à leur manière, en se réappropriant finalement tous les codes qu'on nous a un peu retirés.
Didier Breton.
Non, mais on a un peu d'enquête, mais quand même, cet argument écologique, je pense, il semblerait que c'est une réponse à la pression sociale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous ne voulez pas d'enfants, c'est difficile de l'assumer socialement. Or, depuis quelques années, cet argument écologique, il est un argument de fond qu'on ne va pas contredire, que ce soit dans les repas de famille, quand vous discutez, etc. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, évidemment, l'éducation, on a eu un débat là-dessus. On se dit aujourd'hui, la fécondité à l'échelle de la planète, c'est 2,4, donc c'est relativement faible. Ça baisse plus vite que les Nations Unies avaient imaginé, c'est en train de diminuer. Donc on se dit, si on a une conscience écologique forte, admettons, finalement, le geste militant, c'est d'avoir un enfant. Les gens n'en auront pas 3-4, mais d'avoir un enfant et de peser dans le débat. Ça me semble plus rationnel, entre guillemets, si on a cette conscience écologique.
Et Maxime Sbahy, vous demandez dans votre livre, je vous cite, hein, « Si le catastrophisme et le défaitisme étalés à longueur de journée ne deviennent pas autoréalisateurs ?»
Et c'est la vraie question, je pense, aujourd'hui, hein, d'ailleurs, sur les questions climatiques, hein, c'est que, est-ce que au bout d'un moment, on ne bascule pas dans quelque chose où on se dit bah, « c'est foutu pour foutu, on en profite, et en fait, ça devient contre-productif. » Donc oui, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Et puis, moi, ce qui me dérange aussi, c'est les injonctions maintenant très politiques, très militantes, justement, où on va pointer du doigt ceux qui peuvent avoir des enfants, ceux qui veulent avoir des enfants, en disant « mais tu t'en rends compte, c'est complètement irresponsable pour la planète ». Voilà, je pense que ça doit rester un choix personnel. Mmh. Et puis, moi, il y a quand même quelque chose fondamentalement qui me dérange, c'est qu'on ne peut pas à la fois se réjouir de la raréfaction des générations futures et appeler en même temps à se battre pour elles. Je pense que si elles ne sont pas incarnées, si elles ne sont pas représentées, ça, en fait, l'horizon politique se réduit. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en France aujourd'hui. Hein. On est dans un pays qui vieillit comme jamais. Le corollaire de la dénatalité, c'est le vieillissement. C'est une population de plus en plus âgée, qui a besoin de soins, de retraite. Ça mobilise aussi beaucoup de moyens de financement public pour le vieillissement et pas forcément pour la transition écologique. Et puis, ça a peut-être raccourci l'horizon politique. On le voit aujourd'hui. Hein. On pense à quelques mois maintenant et plus du tout sur les décennies à venir. Et donc, je pense que voilà, moins d'enfants, moins de jeunes dans la société, ça a aussi un impact sur l'état d'esprit de cette société.
Ce qui m'étonne, je vous l'ai dit hors antenne, après avoir lu votre livre, Maxime Sbahy, c'est pourquoi la question démographique n'est pas la question fondamentale dans les débats politiques. Didier Breton, Maxime Sbahy, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus prégnante dans l'espace public, cette question qui est fondamentale ?
Bah, le vieillissement, on en parle quand même un petit peu. La question démographique autour de la fécondité, bon, d'abord, on a été une exception européenne très longtemps, donc ça ne faisait pas de débat, la fécondité était autour de 2, donc ce n'était pas un débat fort. Et oui, moi je suis d'accord que c'est un enjeu intergénérationnel, de cohésion sociale. Alors après, des territoires, je travaille beaucoup sur l'outre-mer, par exemple, en Martinique, où la population baisse depuis un moment, mais c'est aussi pas mal de territoires, c'est une vraie question des politiques publiques, ils en parlent. Les territoires en décroissance, les villes qui décroissent, etc. C'est une vraie question. Et à l'échelle nationale, c'est vrai que c'est assez étonnant. Voilà.
Maxime Sbahy.
Il y a le climat, bien sûr, et on le ressent, c'est palpable. On le ressent au quotidien. Il y a la tech, où il y a des nouvelles applications, donc là aussi, c'est visible. La démographie, c'est moins visible. C'est moins spectaculaire, et pourtant, je pense que c'est tout aussi puissant, et ça devrait être mis au même rang, justement, de méga-tendances qui sont en train de changer le cours de l'histoire que la tech et le climat. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de France, ça fait depuis la Révolution française, d'ailleurs, on était le premier pays au monde à faire l'expérience de la dénatalité, hein, à voir la fécondité baisser avant tout le monde. On ne sait toujours pas pourquoi, d'ailleurs. Ça reste un mystère de l'histoire. Et donc ça a, par vague, beaucoup influencé les débats publics. Ça a effectivement disparu sur les dernières décennies. Là, ça revient en force parce que la courbe, elle chute. Les naissances, elles baissent depuis 14 ans maintenant. Hein. Donc c'est plus quelque chose de passager, de temporaire, ça devient durable et structurel.
Allez, il est 10h43, l'heure de retrouver la chronique « Ma vie de parent » de Julien Bisson.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Alors, mon cher Julien Bisson, que pensez-vous du débat actuel sur la natalité?
Eh bien, la question de savoir s'il faut ou pas faire des enfants, j'avoue que je préfère botter en touche. Trop d'arguments de part et d'autre, on l'a entendu, trop d'injonctions pour ou contre le fameux réarmement démographique, trop de pression mise sur les jeunes adultes, je ne vais pas en rajouter, ils ont déjà la barque suffisamment chargée. Sinon, peut-être rappeler qu'avant de regretter qu'on fasse moins d'enfants que par le passé, on pourrait déjà assurer celles et ceux qui souhaitent en avoir qu'ils pourront procréer ou qu'on pourra les aider à élever leurs bambins. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que je suis frappé de voir dans mon entourage des trentenaires, souvent en couple depuis longtemps, patienter toujours un peu plus avant d'avoir des enfants. Et si vous leur posez la question de façon un peu plus subtile que le terrible « bah alors, vous faites quoi ? L'horloge biologique n'attend pas ?» Eh bien, je reçois des réponses sur l'état de la planète, sur la crainte de l'avenir, Trump qui veut s'emparer de Gaza, mais aussi sur cette simple phrase « je ne me sens pas encore prêt ». Alors moi, j'ai pas de solution miracle pour le réchauffement climatique ou contre l'énième dinguerie annoncée par Donald Trump, mais peut-être qu'on peut s'arrêter sur cette question. Quand est-on prêt à être parent?
Bon, alors, vous avez la réponse?
Comme souvent, je vais commencer par vous répondre par la négative. Il est plus simple de savoir quand on n'est pas prêt. Quand on a 17 ans, par exemple, ou qu'on n'a pas encore réglé vraiment ses problèmes avec ses propres parents, ou si votre conjoint est toxique, violent ou harceleur, vous pouvez alors juger qu'il n'est sans doute pas recommandé de se reproduire avec lui, ou elle, mais surtout lui, si on en croit les chiffres. Pour le reste, je ne suis pas thérapeute de couple, je ne suis même pas sûr d'être expert en parentalité et je serais bien en peine de vous dire quel moment de votre relation conjugale serait idéal pour procréer. Que vous soyez avec cette personne depuis 6 mois ou 10 ans, que vous ayez 25 ou 40 ans, que vous ayez d'ailleurs un conjoint ou pas, je ne suis pas sûr qu'il y ait de formule idéale pour se savoir prêt à être parent et il est même tout à fait normal de ne pas se sentir prêt, même quand on a envie d'avoir un enfant. Je vais prendre un exemple que je connais un peu mieux que les autres, puisqu'il s'agit du mien. Pas que ce soit le plus intéressant, hein, au contraire, il est même parfaitement banal. Mais je me souviens que lorsqu'a germé le projet d'enfant, et donc l'arrêt de la contraception, un de mes amis, qui avait déjà une petite fille, m'avait justement demandé si je me sentais prêt à être père. Et sa remarque m'avait fait beaucoup réfléchir. Parce que jusque-là, je n'avais conçu l'événement un peu naïvement que dans le fait d'avoir un enfant, pas d'être père. Comme si tout ça était extérieur à moi finalement, que ce n'était pas moi qui allais changer. Bon, je vous l'accorde, c'est sans doute plus facile de se représenter les choses comme ça quand on est un homme. Cette simple phrase m'avait en tout cas plongé dans un abîme de réflexion sur cet autre individu que j'allais devoir devenir. Et quelques mois plus tard, alors que mon fils allait bientôt arriver, j'avais retrouvé le même ami qui m'avait demandé où j'en étais. Et je lui avais répondu un peu paniqué que j'avais le sentiment que je ne serais jamais prêt. Et il m'avait alors dit cette phrase véridique. C'est le signe que tu l'es.
Bon, ça fait un peu philosophie de comptoir, votre histoire, non?
Oui, sans doute, oui, bien sûr. Mais je crois qu'il y avait quand même un peu de vrai dans ce qu'il m'a dit. Reconnaître que je ne serais jamais prêt, c'était accepter l'idée que quelque chose d'absolument inédit et de profondément singulier allait arriver et qu'il me fallait l'aborder avec humilité. On peut s'y préparer, bien sûr. J'ai essayé de le faire pendant 8 mois, en lisant des livres, en assistant à des cours, ou encore en réfléchissant à ma propre relation avec mon père. Mais être prêt, non. La parentalité reste encore et toujours une forme de saut dans le vide. Et en disant cela, je repense à ce que m'avait dit un jour Thomas Pesquet, qui m'avait expliqué que vous pouviez faire toutes les simulations possibles, accomplir tous les exercices au sol, converser avec tous les astronautes de la base, rien n'égalait l'expérience réelle du décollage d'une fusée dans l'espace. Alors, je risque la comparaison, les jeunes parents sont tous des petits Thomas Pesquet qui s'engagent dans un grand voyage vers l'inconnu. Et c'est peut-être mieux d'ailleurs, il faut sans doute un peu d'inconscience et ne pas tout savoir de ce qui nous attend avant de s'y engager. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne vous sentez pas prêt. Reste que comme notre astronaute préféré, il est encore préférable de connaître le mode d'emploi de la fusée avant d'y monter.
Réaction autour de la table, Didier Breton, démographe.
Non, mais c'est. Enfin, vous avez mis le doigt sur un élément qui est important. En effet, c'est bon, d'abord une rationalisation de devenir parent qui peut-être était moins effective avant, puisque on peut choisir vraiment le moment où. Du fait de la diffusion des moyens de contraception, de la maîtrise, et puis aussi des étapes de la vie qu'on doit avoir réalisées avant d'être parent. Et ça, c'est vrai qu'il y a par exemple la question du couple, ce qu'on voit, donc le couple et de la stabilité du couple. Les gens ont intégré qu'un projet d'enfant, c'est quelque chose dans le long terme, et donc il faut une stabilité. Alors, stabilité économique, stabilité, mais aussi stabilité émotionnelle, et donc un engagement. Dans le couple qui est important. Donc.
Maxime Zbahi, l'une des raisons de la dénatalité dans notre pays, c'est lié aussi, et il l'a dit en creux, Julien Bisson, c'est le spectaculaire recul de l'âge de la maternité. Ça réduit forcément la fenêtre de tir de procréation des femmes.
Oui, bien sûr. Et puis, il y a du bon et du mauvais. Hein. Enfin, le mauvais, on les a listés, si c'est des contraintes matérielles. Et puis, il y a le bon, c'est parce qu'avant, c'était des enfants qui n'étaient pas désirés. Et avant, la fécondité n'était pas vraiment un choix. C'est d'ailleurs une fonction de la mortalité. Je rappelle que la mortalité infantile était quand même très, très élevée jusqu'en 1950. Il y avait un enfant sur quatre dans le monde qui mourait avant de voir l'âge adulte. Ce qui, d'ailleurs, fait dire un démographe comme Paul Morland, qui dit, en fait, si on estime qu'il est cruel de faire naître un enfant dans le monde aujourd'hui, alors nos ancêtres et nos aïeux devaient être méchant ou cruel eux-mêmes d'avoir fait ça. Ça met les choses dans une perspective historique. Moi, j'ai beaucoup aimé votre image du saut dans le vide. Moi, j'ai essayé un peu de lire en préparant. Je suis allé jusqu'à lire Suran. Alors là, je suis parti complètement...
De l'inconvénient d'être né.
Ouais, exactement. Et là, je me suis dit, voilà, il faut t'arrêter. C'est pas dans les livres que tu vas trouver la réponse. Donc oui, on n'est jamais vraiment prêt. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de la parentalité.
Charlotte Meyer.
Oui, c'est drôle parce que vous parlez beaucoup de bouquins, enfin de s'investir en lisant beaucoup pendant la grossesse. Et je crois qu'il y a aussi cette pression-là qu'on avait moins avant, qui est qu'il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui sortent sur comment devenir un bon parent, comment gérer les émotions de ses enfants. Et je crois que ça relance aussi ce débat de, on a l'impression que... Il y a une grosse culpabilité qu'on avait peut-être moins avant, parce que les projecteurs sont braqués sur le comportement du parent et de comment être le parent idéal.
Tous les épisodes de Ma vie de parent de Julien Bisson sont à retrouver dans l'appli Radio France. À la une du 1 Hebdo cette semaine.
Eh bien, on se demande qui contrôle l'IA, tout comprendre de la géopolitique de l'IA, alors que va s'ouvrir à Paris le sommet mondial sur l'intelligence artificielle.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Pourquoi fait-on moins d'enfants ? C'est notre question ce matin. Et une question d'Isabelle. Y a-t-il une différence entre les territoires urbains et les zones rurales ? Didier Breton, je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'INED et maître de conférences à l'université de...
Strasbourg.
De Strasbourg.
On est deux Alsaciens d'adoption ou de naissance sur ce plateau. Alors, il y a une différence territoriale, mais après, quand on contrôle, suivant le niveau de diplôme, sur la situation de couple, etc., une partie de cette différence s'estompe rapidement. Donc, c'est assez difficile de comprendre ça. Il y a des contraintes à être parent en ville, on a parlé de question du logement, il y a des contraintes à être parent aussi et un couple biactif en milieu rural, parce que les services sont moins loin, etc. Donc, il existe une différence, elle est très difficile à interpréter.
Et est-ce qu'il y a des différences selon la catégorie socio-professionnelle ?
Oui. Alors, historiquement, mais on le sait aussi, les catégories socio-professionnelles, ceux qui font, entre guillemets, le plus d'enfants, c'est souvent dans les classes les plus... plus modestes et aussi les plus favorisés. Et entre les deux, on dit que ça fait un J inversé et que ceux qui ont la fécondité la plus faible, c'est globalement des gens qui sont dans les classes moyennes et qui sont dans une dynamique un peu d'ascension sociale. Et là, on va réduire sa fécondité. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne et qu'on observe assez bien. L'INSEE le montre très bien.
Maxime Sbahi, économiste.
Oui, il y a un économiste qui s'appelle Gary Becker qui a été un des pionniers en tout cas sur cette recherche-là et qui lui parle d'un arbitrage entre la qualité et la quantité ou un certains niveaux de vie, et c'est pour ça dire que les pays riches font moins d'enfants que les pays pauvres, ce qui peut paraître paradoxal alors qu'il y a plus de moyens, en fait on investit plus dans l'enfant, l'éducation coûte plus cher, et donc en fait on fait moins d'enfants pour investir un peu plus dans un enfant ou dans deux, dans une taille réduite. Sur les territoires, ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que démographiquement, la carte de la France est en train de changer très vite aussi, et on a déjà notamment un tiers des départements qui sont en décroissance, c'est-à-dire qui ont passé leur pic démographique, et qui sont déjà en décroissance par un vieillissement accéléré et une dénatalité. Vous allez en Creuse ou en Dordogne, on ferme des écoles et on ouvre des EHPAD. Vous allez à Bergerac, par exemple, je crois qu'il n'y a plus de rayons couches. Enfin, c'est des choses où ça commence à être visible, à se sentir. Ils ont fermé à Bergerac deux écoles dernièrement, ça a fait beaucoup de bruit. Mais voilà, moi j'ai calculé, depuis 2010, on a fermé 5000 écoles en France et on a ouvert 300 EHPAD. Voilà.
Didier Breton.
Ça, c'est assez intéressant parce que sur les territoires, en effet, quand la fécondité baisse, il y a Wolfgang Lutz, qui est un chercheur de Vienne, là, qui disait qu'il parlait de trappe de la basse fécondité. C'est-à-dire quand on arrive à assez bas, la société s'organise sans. Et c'est
sociale.
Difficile, la trappe est fermée et c'est difficile de remonter. Ouais.
Alors quand on arrive au terme de cette émission, quand on interroge les Français et les Françaises sur ce qui empêche de réaliser leur désir d'enfant, ce qui revient quand même, ce sont des réponses d'ordre matériel, être en couple stable, avoir un logement adapté, avoir assez d'argent, hein, selon une étude de l'UNAF publiée en 2023, Maxime Sbahi.
Oui, c'est des choses finalement assez banales, on va dire, assez intergénérationnelles. d'ailleurs, hein, c'est d'avoir un toit propre, de pouvoir gagner assez bien sa vie, de sentir aussi un élan dans la société où je pense que c'était les 30 glorieuses de Baby Boom, c'est un peu un glitch, une anomalie dans la transition démographique, mais Jean-François Cirinelli en parle très bien, il dit
historien.
Il y a ce cocktail des les 4 P, la paix, la prospérité, le progrès, le plein emploi. Bon, ça c'est quand même une formule un peu magique pour les projets familiaux. Aujourd'hui, on n'en est plus là et effectivement, on a moins de croissance, on a un avenir qui est plus incertain. Tout ça, ça pèse aussi, bien sûr, sur les projets.
Oui, je pense aussi quelque chose qui a changé, qui est probablement, j'utilise du conditionnel spécifique à la France, c'était la place de l'État-providence. Et qui pouvait gérer à la fois sa retraite, peut-être sa santé, etc. S'il y a un doute dans la société sur cette idée, ben, il y a une individualisation qui vient, c'est-à-dire le destin de soi et des enfants dépend beaucoup plus de nous. Et je pense que ça a quand même changé en France, ce sentiment de l'État-providence qui pouvait...
Bref, la fécondité n'aime pas beaucoup l'incertitude économique et reste très sensible à la conjoncture. Au fond, vous l'écrivez dans votre livre, Maxime Sbahy, ce n'est pas le désir d'enfant qu'il faudrait stimuler, mais plutôt donner la facilité, les moyens de réaliser ce désir. Comme vous l'écrivez, la jeunesse française manque de temps, de moyens et d'espace pour concrétiser son désir d'enfant. Et vous citez Georges Bernanos, « Quand la jeunesse se refroidit, la natalité claque des dents ».
Oui, en fait, je pense que c'est un des facteurs hein, qu'il faut prendre en compte, en plus des aspects sociologiques, écologiques. Il y a aussi un pays qui, en fait, est de moins en moins jeune, qui est de moins en moins orienté vers sa jeunesse, qui s'endette pour payer des retraites. Et ça joue quand même beaucoup, hein, la solidarité intergénérationnelle. Je rappelle qu'elle nous prive tous ici autour de la table d'un tiers de notre salaire brut pour financer les retraites aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et donc, dans le grand débat de savoir est-ce que finalement c'est le désir d'enfant qui est en train de s'éteindre ou est-ce que c'est la réalisation de ce désir qui est plus compliqué. Moi, je penche plutôt pour le second. Et le rôle de l'État n'est pas d'encourager ou d'inciter. Moi, je suis un libéral assumé, mais il est de faciliter les projets familiaux quand ils existent.
Et pour vous, il faut assumer une part d'impuissance de la chose publique en matière de dénatalité.
Oui, et la liberté individuelle et la fécondité ne sont pas corruptibles. On n'achète pas la fécondité.
Et on citait tout à l'heure le réarmement démographique. C'est une phrase une expression du président Emmanuel Macron. Ça ne se décrète pas, la dénatalité. Il n'y a pas de bouton magique. Hein ?
Non, et d'ailleurs, tous ceux qui ont essayé se sont cassés les dents. La Hongrie de Viktor Orban est souvent présentée comme un exemple. Les chiffres viennent de tomber, les naissances continuent de baisser, le taux de fécondité continue de baisser. Il n'y a pas de réponse magique. C'est une question de contexte.
Le mot de conclusion, Charlotte Meyer ?
Bah, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Maxime Sbahy. Je pense que c'est hyper important de dire que si vraiment aujourd'hui les politiques veulent relancer la natalité, plutôt que d'avoir des phrases martiales qui ferment le débat public et le crisent plutôt que de relancer, il serait peut-être temps de créer une société où on est heureux de faire famille aujourd'hui.
Et dans votre livre, Maxime Sbahy, mais il faut lire le livre, vous dessinez trois voies, procréation, immigration, robotisation, peut-être inciter à faire plus d'enfants ou en tout cas relancer la natalité.
C'est ce que font les pays qui sont confrontés à ça, c'est les bébés, les immigrés ou les robots. Tout le monde joue un peu sur les trois tableaux. Effectivement, c'est les trois voies.
Merci Didier Breton d'être venu. Merci Maxime Sbahy. Les balançoires vides, le piège de la dénatalité, c'est publié à l'Observatoire. Merci Charlotte Meyer. Les enfants de l'apocalypse, faire des mômes n'empêche pas d'être écolo, c'est publié chez Tana.
Rendez-vous face. Podcast France Inter.